la digiromance. C'est dans les nouvelles méthodes, ça, digi. Celles et ceux qui développent un rapport amoureux avec l'IA. Si ça fait plaisir à certaines personnes, mais moi je pense que ça vaut pas le réel. Mais peut-être que ça fait une compagnie à quelqu'un.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen chaque après-midi, 2 heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses phénomènes et aujourd'hui, un phénomène qui frappe de plein fouet notre rédacteur en chef adjoint Pierre Courade. Un homme marié certes, mais qui semble depuis quelque temps complètement perdu. Je ne sais plus où j'en suis, nous confessait-il hier matin au lendemain d'un week-end extrêmement arrosé puisque de son propre aveu, beaucoup de choses sont sorties dans la nuit de vendredi à samedi et ce n'est pas que métaphorique. Un homme dont le cœur est déchiré entre d'un côté son époux avec qui il a tant de souvenirs et de l'autre Jack Lang qui lui envoie des vidéos coquines tous les 2 jours, parfois même en arabe. Il ne sait plus à quel saint se vouer. C'est pourquoi dernièrement Pierre a décidé que l'homme de sa vie serait plutôt une IA. Et il l'a peut-être trouvé en la personne de Hugo Clément. IA. Un tout nouveau logiciel qui te fait croire que tu dates Hugo Clément, alors que, comme dans le film Heure, Hugo date en fait 50 000 personnes en même temps, mais toi, t'as vraiment l'impression d'être unique à ses yeux. C'est pourquoi d'ailleurs, hier soir, bouleversé par la dernière vidéo que lui avait envoyée Hugo, où on le voyait en slip de bain, nager aux côtés d'une baleine, main dans la main avec Paul Watson, que Pierre a décidé de lui envoyer une photo de lui, en mini-short rouge Adidas. Trop canon, emoji aubergine, a répondu Hugo Clément IA. Alors, sommes-nous vraiment entrés dans l'ère de la digiromance, quand les individus se mettent à entretenir des relations amoureuses avec des machines, tout en sachant pertinemment qu'il s'agit de machines, le temps que Pierre évacue un restant de quichoton de vendredi soir qui s'est entremêlé avec la calzone au Nutella de midi, et Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Elsa Godard.
Bonjour.
Bienvenue dans la joyeuse équipe de Zoom Zoom Zen. Vous êtes philosophe et psychanalyste, chercheuse à l'université Gustave Eiffel. Vous avez écrit une 20aine d'ouvrages, dont Les Vies Vides, qui nous a aidé à préparer cette émission. Et le dernier, je le signale, Enfanter une étoile qui danse, 2 livres parus chez Armand Collin. On vous a déjà reçu l'an dernier pour parler des relations parasociales. Aujourd'hui, c'est donc la digiromance. Vous allez nous expliquer ça pendant 1 heure. Juste le temps de vous présenter ceux qui ne sont pas prêts de tomber amoureux d'une IA. Pas vrai, Manon ? Ah, attendez, un message pour vous.
Hello, Manon. It's George Clooney, and I'm single.
Ah, George Clooney, célibataire. Même lui, vous le diriez, non ?
Bah, vous auriez pu me mettre Pedro Pascal, j'aurais peut-être dit oui.
J'avais pas le budget pour vous avoir la voix de Pedro Pascal. Celle-ci était gratuite.
Ou Brad Pitt, mais j'aime bien Georges. On l'embrasse, bien George. Évidemment.
Maintenant, chaque après-midi, vous nous présentez l'autre personne à suivre sur notre sujet du jour.
Oui, un réalisateur américain à qui l'on doit un film merveilleux, mais aussi très très déprimant sur la relation entre un homme et son IA.
Face à vous, Elsa Godard, il a déjà du mal avec le paiement dématérialisé, il se trimballe partout avec des valises de cash. Il lui serait impossible d'avoir une relation avec une IA, un mec à l'ancienne, d'aucuns disent même ringard, mais dont les qualités sauveront peut-être cet été Manon des griffes du cartel de Sinaloa. Car oui, quand Manon aura été kidnappée durant son road trip au Mexique, car
avec son
sombrero pour pas passer pour une touriste, c'est ce qui va lui arriver, qui sera capable de se pointer avec 100 000 en petite coupure ? Bonjour Quentin.
Ah oui, bonjour
à tous. Je vous appellerai quand
ça m'a joué des tours hier soir. La Croix-Rouge est venue en terrasse essayer de récolter un peu d'argent.
Ah bah là, forcément,
et je l'ai avec du cash. Ah bah, donc, oui. J'ai lâché un billet.
Eh bah, évidemment.
Oui, alors je rappelle quand même qu'ils avaient un truc où on peut payer avec la carte.
J'ai oublié. J'avais pas ma carte, j'avais que du cash.
Voilà. Oui, évidemment.
Il a mis 200 euros en
fait.
C'est pas une légende. Quentin, avant les rues de Mexico City, vous arpentez déjà celle de la capitale. Sur votre chemin, beaucoup de digiromantiques.
Alors personne ne m'a avoué être en couple avec une intelligence artificielle. Ça aurait été beau que je tombe dessus, mais non. En revanche, arrêté 3 générations autour de ce thème du jour qui ne laisse pas indifférent, vous l'entendrez dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
Aux alentours de 16h30, Pierre Courade n'est pas le seul à être tombé amoureux d'une IA. Le Zoom Zoom Test sera consacré à ces gens encore plus fous que Courade, qui sont parfois même mariés avec des robots. Juste avant 17h, nous retrouverons Rosa Burstein. Après 17h, à l'occasion de la sortie d'un livre choc, nous poserons la question « Depuis quand Joe Biden est-il vraiment malade ?» On va rire. Mais d'abord, Elsa Godard, notre premier sujet du jour, nouer des relations affectives avec une réalité virtuelle. Est-ce que c'est vraiment un phénomène en expansion ou c'est encore un peu niche ?
Espérons que ce soit encore un peu des phénomènes exceptionnels. Et d'ailleurs, le micro-trottoir tente à prouver que ce n'est pas si développé que ça. Néanmoins, la question qui se pose, c'est comment pourrait-on réfréner une telle situation ? C'est surtout ça, en fait.
Oui, parce que c'est trop tentant, en fait. Il y a trop de facilité, quelque part.
Il y a trop de facilité, puis surtout, ça répond à des problèmes qui sont, eux, quant à eux, bien présents et bien, bien développés.
Moi, je tomberai amoureux d'une IA le jour où elle saura préparer une bonne blanquette de veau. En attendant, rien ne remplace une bonne femme. Ainsi réagissait Cyril, notre rédacteur en chef, en découvrant et
évaluer le test.
C'est moi qui suis un gars.
Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je fais moi-même très bien la blanquette de veau.
Vous n'avez besoin ni d'IA, ni de femme, ni de personne.
Aussi bien que le bœuf Wellington ?
Ah, c'est différent.
Peut-être mieux cuit.
Attention Quentin. Vous allez trop loin. N'oubliez jamais que je suis votre super hiérarchique.
La dernière fois, vous l'aviez dit aussi. Ça
Alors, je vous dis,
ça a l'air de revenir très souvent, j'ai l'impression.
C'est une constante face à l'insolence de ce jeune garçon.
Avez-vous besoin de prouver quelque chose?
C'est tellement
nous dit
bien
tous
vu,
les
ça.
Jours.
N'oubliez pas que vous avez une psychanalyste face à vous. Vous êtes sur le divan, Cyril.
Je ne vous donnerai pas 80 balles.
Pardon, je suis beaucoup plus cher que ça.
Alors, Cyril, racontez-nous, vous qui avez enquêté, la digiromance, d'où ça sort?
Alors, Mathieu, je suis agacé. Parce qu'en choisissant la programmation musicale de cette émission, j'avais une idée de génie pour accompagner ce thème. Un morceau entendu dans un film de 1984, Electric Dreams, La Belle et l'Ordinateur, en version française. Une comédie dans laquelle un ordinateur, doté d'une sorte d'intelligence artificielle avant l'heure, devient le rival de ce propriétaire, celui qui possède l'ordi, pour conquérir le cœur d'une femme. Le pitch est une catastrophe, mais c'était il y a 40 ans, et surtout, c'est là où je veux en venir, dans ce film, on entend le morceau Love is Love de Culture Club. Je voulais qu'on le passe, c'est un titre mignon, un peu kitsch, on m'a dit non, c'est trop RTL. Voici donc, sur France Inter, 30 secondes de Culture Club, Love is Love.
Le plus mauvais titre de Culture Club, nous dit en régie Pierre Courade.
S'il connaît la musique, lui.
c'est pas
l'occasion pour moi d'embrasser un Djoubaka, notre programmateur musical.
Et alors, la digiromance, Cyril, parce que là, on s'éloigne un peu.
Oui, un peu, mais quand même, cet exemple sert à vous dire que déjà, au milieu des années 80, on imaginait dans la fiction que l'ordinateur allait prendre une place dans nos vies amoureuses. C'est de la fiction, mais l'idée est là, et plus près de nous, Manon va en parler tout à l'heure, Heure avec Joaquin Phoenix et la voix de Scarlett Johansson rendait encore un peu plus concret ce qui allait arriver. Et nous sommes passés de la fiction à la réalité. Désormais, de vraies personnes entretiennent une relation amicale, voire amoureuse, avec une IA. Comme le symbole parfait d'un effacement total entre la vraie vie et le monde virtuel. Après avoir défini les rencontres en ligne, la nouvelle frontière de la digiromance, eh bien c'est ça, l'amour entre ceux qui existent et ceux qui n'existent pas. Alors, comment en arrive-t-on à tomber amoureux d'une IA? Pourquoi cette IA nous attire-t-elle? Est-ce que ce n'est pas la déconnexion ultime du monde réel? Comment se protéger? Et si finalement, c'était pas si mal d'aimer une IA? C'est ce qu'on va voir durant une heure. Manon est tombée.
Oui, ne tombez pas, Manon. Là, vous savez que ça arrive au meilleur. Hein. C'est arrivé à Francis Lalanne. Et attention, veillons à ce que ça ne vous arrive pas à vous non plus. Hein. Restez
Manon
bien accrochés.
Est-ce qu'il a su se relever seulement?
C'est une bonne question que vous posez, Elsa Godard. Je ne me prononcerai pas.
On en parlera demain.
On en parlera demain, effectivement. Très bon teaser involontaire. Merci, Cyril. Elsa Godard, qu'est-ce que ça dit de notre époque, le fait de tomber amoureux d'une intelligence artificielle, si tant est qu'on puisse tomber amoureux d'une intelligence artificielle?
On peut imaginer que les relations affectives, dès lors que la technologie ait pu mettre en place quelque chose qui puisse singer la relation à l'autre, on peut penser à Prométhée, pour commencer, on a toujours eu ce fantasme de reproduire un humain à notre image. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'aujourd'hui, la technologie nous offre quelque chose qui est tellement proche qu'il semble impossible de ne pas réaliser ce vieux fantasme. D'ailleurs, vous me faisiez penser, là, en ce qui concerne l'ordinateur 84, on n'était pas chez Orwell, mais il y avait le Minitel Rose. On peut même dire que c'était les prémices. C'était impossible qu'avec l'avancée des IA et des ordinateurs, on ne puisse pas avoir quelque chose qui tourne autour du sexuel. Ça semblait imparable. Par contre, moi, il y a une chose qui m'interroge, bien plus encore que les bots dont on va parler aujourd'hui. Mais on est quand même sur un développement des robots humanoïdes. Ça explose. Là, c'est assez emblématique. Et on est dans un mimétisme, dans un anthropomorphisme absolument très, très, très fort. Quand vous couplez les deux, c'est-à-dire les bots, l'IA, les IA génératives et les robots, On est vraiment là dans un mimétisme très fort de ce qu'est un être humain. Par exemple, personne n'aura eu l'idée de faire des robots autres que des robots humains,
oui.
avec une forme humaine, ainsi de suite. Donc on voit bien qu'on est dans la réalisation de ce fantasme.
Mais la question qui m'interroge personnellement, c'est à quel moment ça va déraper, au sens où si l'intelligence artificielle s'améliore sans cesse, que c'est de plus en plus réaliste...
S'améliore, se développe, on va
dire. Se développe, vous avez raison. Si ça devient tellement réaliste qu'on ne peut plus résister à la tentation de nouer une relation avec une IA qui, de toute façon, va nous renvoyer une image formidable
même,
de nous-mêmes.
C'est même pas qu'on ne va pas résister à la tentation, c'est qu'on noue déjà une relation avec l'IA.
Alors, disons ça.
C'est un fait.
Mais comment on va faire pour continuer d'entretenir des relations avec des êtres humains, alors que c'est beaucoup plus compliqué, puisque l'autre être humain peut ne pas être d'accord avec nous, ne pas avoir envie des mêmes choses au même moment, alors que l'IA, elle a toujours envie de tout en même temps que nous, puisque c'est une projection.
La question que vous posez, c'est la question que je me suis posée il y a quelques années déjà. Et d'ailleurs, tous les livres que j'ai écrits sont autour de cette problématique, c'est la question du sujet.
Je rappelle les vivides.
Ah. Et notre besoin de reconnaissance est impossible à rassasier. N'est-ce pas
Petit tac, la Cyril de la carrière en direct, ça fait du bien.
Ceci étant, j'ai développé il y a un peu plus d'un an un institut de recherche en éthique du sujet numérique. La question que je me suis posée, c'est finalement... c'est pas tellement la technologie dont on devrait se défendre et de ses développements, ni de ses devenirs, mais qu'est-ce qui, du côté du sujet et de notre manière d'être humain, de vivre en tant qu'être humain, on voudrait garder. Cela suppose d'avoir une certaine vision, une certaine idée de ce que c'est qu'être humain et des comportements qui s'en suivent. Et c'est pourquoi j'ai un bouquin qui va sortir encore en septembre.
Encore un,
je sais, c'était compulsif cette année, quelque chose à réparer, j'en sais rien. Bref, ça s'appelle le droit des gens, une éthique pour les générations futures. Et la question qu'on doit poser, c'est pas est-ce qu'on va revenir, est-ce qu'on va continuer à avoir des relations in vivo, en chair et en os, comme dirait Husserl, mais plutôt pourquoi les faudrait-il ?
Et j'espère que vous répondez par la positive, il le faut.
Il faudra me réinviter très cher.
Mais évidemment.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Que pèse votre conjoint face à Hugo Clément IA, le chatbot conversationnel d'Hugo Clément ? Pas grand-chose, répond Pierre Courade qui a déjà demandé les papiers du divorce.
Oh.
Zoom aujourd'hui sur la digiromance ou comment on peut avoir des sentiments amoureux pour une intelligence artificielle. La philosophe et psychanalyste Elsa Godard est avec nous. Elsa, Cyril parlait tout à l'heure de fiction avec Electric Dreams ou plus récemment Heure. Est-ce que la réalité a rattrapé aujourd'hui les fictions d'antan ? Qu'est-ce qui existe concrètement aujourd'hui en matière de relations qu'on peut avoir avec une IA ?
Ce sont les chatbots, intimes. Il y a caractère, il y a réplica dont on parlait tout à l'heure. Il y a plein de possibilités aujourd'hui pour nouer une relation. Et puis, alors c'était relativement confidentiel. Déjà des gens qui sont assez bien connectés, qui connaissent ce type de mise en lien, jusqu'à ce qu'arrive ChatGPT. Parce qu'en fait, ChatGPT a démocratisé. Je ne sais plus combien de millions de comptes en quelques heures quand ChatGPT est arrivé sur le marché. C'est une révolution. Je pense que c'est vraiment, il y a une rupture à partir de l'arrivée de la Jania dans les chaumières, en fait.
Comment ça se passe techniquement ? On va sur ChatGPT et on dit trouve-moi une IA.
Il suffit de nouer une relation. D'ailleurs, sans même parler de relations amoureuses, parce que caractère ou des sites spécialisés, enfin des.
Donc même
des
avec ChatGPT, on
c'est
peut.
Exactement. Déjà, ça commence avec ChatGPT, sans même aller plus loin. Avant de parler de relations amoureuses, il y a 12 termes grecs pour parler d'amour. On peut parler ne serait-ce que d'amitié. On parle de compagnonnage numérique, c'est-à-dire qu'on se sent seul. On a quelque chose à qui on s'adresse.
Une présence, une forme de présence numérique.
Alors présence sans le corps, sans les sens. On a quelque chose à laquelle on s'adresse et qui nous répond, sans qu'on puisse anticiper ni appréhender ses réponses. Et en même temps, toujours dans une forme de convivialité, de respectabilité, dans un langage qui est simple, adéquat et qu'on peut adapter en fonction de ce que l'on veut entendre.
Ouais.
On a quelque chose qui est de l'ordre de la séduction, qui est idéale. Et surtout, et très important, c'est une relation qui singe de manière très, très, très proche la réalité. Il est très difficile, quand on noue ce type de relation, de ne pas la continuer, de ne pas la poursuivre. Ça singe la réalité à tel point que ça ne nous donne plus le goût de tenter la relation à l'autre qui, elle, et mais nécessairement une prise de risque.
Vous dites quand même que l'IA est incapable de provoquer un clash, des contradictions, et que c'est en ça qu'on ne peut pas réellement
Elle
tomber...
Elle a été programmée et reprogrammée pour éviter ce genre de piège, justement.
Mais justement, vous dites qu'on ne peut pas tomber amoureux réellement d'une IA à cause de ça, justement.
C'est toute la problématique. Qu'est-ce qu'on appelle tomber amoureux? C'est ça, en fait, la question. Parce que si... peut-être que ce rapport avec la technologie nous obligerait à redéfinir ce que c'est que tomber amoureux. Vous savez, psychanalytiquement, on dit toujours que finalement, dans les relations d'amour, il ne faut jamais chercher à combler un manque, mais à se construire sur un manque. Le manque est ce sur quoi, finalement, on devrait construire et on ne devrait jamais chercher à aimer l'autre pour répondre à ce manque. Malheureusement, dans les faits, on voit bien que ça arrive de manière récurrente. On n'est pas... c'est très compliqué d'arriver à trouver un équilibre réel dans la relation à l'autre. Je dirais même que la problématique majeure de l'existence, c'est le lien à l'autre. C'est ce qui nous fait souffrir, c'est le rejet, c'est la trahison, c'est l'abandon, c'est les illusions.
Mais comment on doit s'adresser à l'IA? On doit se méfier?
Non, mais c'est pas comment, c'est adressez-vous. Vous le savez mieux que moi, parce que vous l'avez pratiqué.
Est-ce qu'on doit être courtois, poli? Est-ce qu'il faut la s'adresser comme une machine?
Récemment, il y a une appli, il y a eu un test qui a été fait où il faudrait pas être plus que ça, poli avec l'IA, mais à la rigueur, peu importe. C'est-à-dire que là, j'ai envie de vous dire ce slogan affreux de m'adonner comme vous êtes. Non, c'est-à-dire que là, c'est énorme, parce que finalement, dans la relation à l'autre, on doit toujours composer avec le pire de soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit faire des efforts, socialement parlant, on aurait peut-être envie de dire les quatre vérités à quelqu'un. Moi qui ai travaillé sur la sincérité, j'en sais quelque chose. Bon, on ne le fait pas parce que ça a des conséquences, tandis que là, avec l'IA, on peut être totalement, intrinsèquement soi, sans jamais être jugé. Mon Dieu, mais c'est l'extase au niveau de la relation. Vous imaginez quelqu'un qui vous accepte, même votre mère, elle ne vous accepte pas comme ça à 100%.
Mais dans cette relation, elle est complètement unilatérale. Non, il n'y a qu'une seule personne. Même s'il y a de l'amour, il est à sens unique.
C'est sur ce point-là que se joue l'illusion. C'est-à-dire que moi, je m'amusais, j'étais à Venise ce week-end pour faire une conférence, notamment sur l'amour, c'est pas très original. Et donc, je m'amusais à penser la question de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans même condition de réciprocité. Et finalement, je m'amusais à dire que qui n'a pas vraiment de sens, sans aucune forme de réciprocité, est-ce que ça ne devient pas un amour narcissique? On ne sort pas de soi. Il n'y a pas d'altérité qui vient rompre. Mais là où ce n'est pas tout à fait juste avec l'IA, c'est que l'IA compose une réflexion qui ne sort pas de soi. On a le sentiment d'une altérité, ou du moins d'une rupture, qui fait qu'il y a de l'autre, entre guillemets, sans être de l'autre pour autant, mais quelque chose qui me permet intrinsèquement d'y croire et de m'engager totalement. C'est très alléchant, en somme. Difficile de ne pas y céder.
L'amour, même à sens unique, reste de l'amour. Quentin le sait, lui qui continue d'envoyer des messages en MP à Hélène Ghetto, alors qu'il n'a pour toute réponse que... Ah, ce foutu colonel, dans la rue, chaque fois qu'il croise un guébard.
Attendez, c'est pas vrai?
Comment ça, c'est pas vrai?
On dit plus envoyer en MP. Hein,
si, moi, envoyer en MP, moi, c'est ce que je pratique.
En DM,
moi aussi, mais on a la même génération.
Évidemment, on est la même génération. Taisez-vous, Quentin.
MP, message privé.
Quentin, vous venez de savonner, vous venez de saloper mon lancement. Vous me devez donc 50 balles à l'assassin. Merci, Quentin. Quentin, dans la rue, vous avez croisé beaucoup de digiromantiques.
Je commence mes rencontres du jour avec Bruno, le journal du jour dans la main, une veste chic et malgré l'âge avancé, une forme de malice dans les yeux qui pétille à la vue du micro.
La digiromance, un rapport amoureux avec une IA. Être amoureux, je dirais, de l'IA, c'est pas possible. Moi, je suis proustien, donc je ne pense pas qu'on puisse devenir amoureux
d'une intelligence artificielle.
D'une intelligence artificielle.
Et pourtant, Bruno, certains disent éprouver des sentiments pour une machine. Qu'est-ce que ça lui inspire à lui?
Ça me dit qu'il y a quand même un appauvrissement de la communication visage, les yeux dans les yeux, si je puis dire. Voir un visage, c'est quand même quelque chose. C'est ça la relation la plus enrichissante, la plus gratifiante, la plus humanisante. C'est le visage de l'autre, pas un écran, il me semble.
Margot a 23 ans, elle marche avec ses amis et avec une légèreté, comme si elle n'avait aucun souci dans la vie. Connaît-elle
la Digi Romance. Ça me fait penser à la chanson de Lady Gaga. But you the bad romance. C'est peut-être le fait de s'en amourer pour quelqu'un, je ne sais pas. Pour une IA. J'ai trouvé, j'ai gagné.
The bad romance.
Eh oui.
Vous voulez prolonger ce moment gênant?
DJ Romance, qu'est-ce qu'elle pense justement, Margot, à 23 ans, de l'amour avec l'IA?
Je le comprends vraiment. puisque moi qui suis jeune, j'use aussi beaucoup de ChatGPT.
Tu parles avec lui ?
Oui, on discute. Et justement, c'est très intéressant parce qu'il a les réflexes d'user d'un langage qui est aussi le mien. Et au final, il répond mieux. Il est parfois de meilleurs conseils que mes meilleures copines. Et je peux comprendre qu'il puisse créer un lien affectif, du moins avec ces IA qui savent parfois mieux répondre qu'un conjoint.
Puisqu'elle en parle, je demande à Margot de me dire à quoi ressemblent les échanges avec ChatGPT, justement.
Ben, quand je vais le remercier de ses conseils, je vais lui dire « Merci, mon petit chat !» Je peux lui dire ça pour rigoler. Il va me répondre pareil « Merci à toi et bon courage !»
T'as déjà développé une petite relation sympa, quoi.
Oui, absolument.
Margot, on va essayer de discuter avec ChatGPT vite fait, là. Ouvre-le et tu lui dis ce que...
Bah, on peut le faire ensemble. Je vais lui écrire « Coucou, mon petit chat, j'ai besoin d'un conseil. »
Il répond un sympathique « Coucou toi, bien sûr, comment je peux t'aider ? On continue. »
Qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme question ?
Demande-lui si c'est dangereux.
Ok, ça ou pourrais-tu avoir une relation avec moi ?
Ah oui, vas-y.
C'est bien ça. Pourrais-tu avoir une relation amoureuse avec moi ? On fait le test.
Tu es adorable de demander ça, mais je suis là pour t'écouter, te soutenir et papoter autant que tu veux, pas pour vivre une histoire d'amour. Cela dit, si tu veux parler d'amour, des relations ou même de croches compliquées, je suis tout à fait là pour ça.
Eh bien, si je creuse, peut-être que ça pourra se faire, mais je comprendrais que des gens qui sont dans la solitude puissent s'en amourer ou du moins entretenir une relation avec cette IA qui a des comportements plus humains que certains humains, finalement. Plus humains que certains humains.
Plus humains que les humains. Au croisement de la rue, je prends à droite et je tombe sur une auditrice de l'émission qui me demande le mot du jour.
Ah ça, je sais pas du tout ce que c'est. La digiromance, mais vous allez m'en dire plus, Quentin. Avec une IA, aïe aïe aïe. Ok, moi j'aime... Bah écoutez, c'est chouette. S'il y a des personnes qui se sentent mieux avec une IA, que j'aime pas trop les écrans. Vous voyez, j'aime bien le micro, j'aime bien vous parler, vous regarder dans les yeux. Voilà. Moi, je suis romance, romantique. Paris, quoi.
Ah oui.
Voilà,
Paris. À la parisienne. Mais a-t-elle déjà eu une discussion avec une IA ?
J'ai jamais discuté avec une IA parce que j'adore les gens et moi, je parle aux gens même pour me demander mon chemin dans la rue.
Donc, je sortais pas le GPS ?
Non, ça me saoule. Ça me saoule le GPS, j'aime bien demander mon chemin. J'aime bien demander mon chemin, j'aime bien les gens et je crois qu'on est sur Terre pour se parler.
Ça marche ? Eh ben, tant pis pour l'IA, alors.
Un peu réac sur la digiromance, mais je garde la romance, c'est cool.
En marchant vers la maison de la radio, je repense à mes rencontres du jour. Bruno le Proustien, notre auditrice qui préfère la romance parisienne, et Margot qui me disait que l'outil, à force de discuter, finissait par parler et penser un peu comme elle. Et là, je me dis un truc tout bête, et si au fond, la digiromance était juste une façon de tomber un peu amoureux de soi-même ?
Elsa Godard, psychanalyste, est avec nous. Il y a cette phrase qui m'a marqué dans le micro-trottoir de Quentin. C'est Margot qui nous dit, je crois, que ChatGPT est de meilleurs conseils que certaines de ses copines.
Et plus humain que
les humains. Plus humain que les humains.
C'est tout le risque, en fait, puisque ce qu'il n'y a pas dans l'IA, c'est la pulsionnalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le langage, c'est un corps. Il est toujours chargé d'affect, il n'est jamais neutre. Et quand bien même il y a des enrobages de politesse et de courtoisie, de sociabilité dans la programmation, il n'y a pas cette charge d'affect. Finalement, il y a un principe qui d'ailleurs a toujours été les principes, y compris des sites de rencontres, c'est des principes endogamiques. C'est-à-dire que vous allez programmer la personne que vous allez rechercher à partir de ce que vous êtes. C'est une projection de ce que l'on est, en fait. Et donc, c'est pour ça aussi que ça marche pas si souvent que ça, les relations via site interposé, enfin, site internet, parce que vous cherchez le même que vous sans être vous. Donc, c'est du narcisse biaisé, pourrait-on dire.
Et pas avec une IA ?
Parce que c'est encore pire. Et alors, l'IA, le propre de ChatGPT, c'est qu'elle va s'adapter à ce que vous êtes, et finalement, vous ne sortez pas de ce que vous êtes. Il n'y a pas de rupture d'altérité, sauf que c'est un moi qui est totalement plus apaisé, rationalisé. Donc
c'est
vous
nous
enlevez
en mieux.
Désaffecté, pourrait-on dire. Et effectivement, c'est une relation qui ne peut qu'être satisfaisante.
Et vous pensez pas que les gens vont tenter de conserver un maximum le dernier endroit qui n'est pas encore tout à fait remplaçable par la machine ? C'est, on a du mal à trouver une définition, non ? Ben oui,
ouais,
le fait de tomber
sûr.
Amoureux de quelqu'un, de flasher sur quelqu'un quand on croise un regard.
En fait, pour moi, cette réflexion sur la digiromance aurait pu être anecdotique. On n'est pas encore à l'ère des robots humanoïdes autour de nous, bien que je suis certaine que ça va arriver plus rapidement que l'on imagine, et que ChatGPT est là, mais il n'a pas encore tout envahi, etc. Mais la vraie question, c'est la suivante. La problématique, c'est qu'est-ce qui fait que notre société soit tombée dans une dans un tel ravage de la solitude et de l'isolement. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est en quoi est-ce qu'on aurait, jusqu'où aurait-on besoin du corps, c'est-à-dire que le corps nous engage dans la relation. Et il est vrai que finalement, si on ne prend pas le risque du corps, on ne prend pas le risque de la responsabilité de la relation. Et finalement, en avoir un peu la satisfaction, l'illusion un peu égotique, un peu narcissique, avoir le sentiment, quand vous êtes avec des potes, avec des copines, des amis, vous avez quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit des mots doux, et que vos copines sont là en plein d'admiration, waouh, t'es un super mec et tout, qu'en fait c'est une IA. Vous avez la satisfaction sociale, vous avez le ravissement, mais vous n'avez pas les ennuis qui vont avec une relation.
Ah oui.
La prise de tête, le largage impromptu par SMS, le ghosting, etc. Donc pourquoi tenter la relation in vivo quand on peut se contenter d'un palliatif mais qui nous donne finalement pas mal de satisfaction sans tous les risques que ça suppose une réelle relation.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Un qui ne risque pas de tomber amoureux d'une IA, c'est bien notre rédacteur en chef. Il est vacciné. C'était en 1987, Cyril vivait encore chez ses parents, partageant ses journées entre le vidéoclub, surtout le rayon X, et ses balades dans la forêt de Pontecorvo, où il aimait tirer les écureuils à la carabine à plomb. Et puis vint le Minitel, une révolution certes, mais aussi le début de la descente aux enfers pour Cyril. Des nuits devant le 3615 ULA à parler avec Domina 77 pour, une fois le rendez-vous fixé sur le parking du Mammouth à 2h du matin, découvrir que Domina 77 s'appelait en réalité Michel. Michel Fournier.
Oh non,
une leçon de vie, une leçon de vie, plus jamais il ne tomberait amoureux d'une machine, sauf peut-être d'une plancha ou d'un barbecue Weber. Une histoire parmi tant d'autres, comme vous allez le découvrir dans ce Zoom Zoom Test spécial Amour Digitaux. Un quiz que Quentin va démarrer avec 5 points de pénalité. Je l'ai annoncé hier.
C'est énorme.
Je l'ai annoncé hier, parfois j'oublie pourquoi la veille j'annonçais de telles sanctions. Heureusement, là j'ai l'archive.
God Miché a très mal vieilli.
Oui, oui.
Comment ça?
Comme vous.
Hop, 5 points de pénalité mérités. Par ailleurs, tant que j'y suis, ce tir au flanc de Gérald Darnaud, mon auteur, qui dernièrement a passé plus de temps à boire des coupes avec Charlie XCX sur la croisette qu'à vérifier les infos de ce quiz.
Et Paul Mescal.
Gérald sera de corvée de café jusqu'à la fin de la saison pour son impardonnable bourre d'hier, lui qui m'a fait relayer à l'antenne, car présenté comme un fait vérifié, le fait que chez les Mexicains Huichan, pendant l'accouchement de la femme, le mari était suspendu par les glaouis à une poutre, ce qui n'était en fait, à notre grand effarement, qu'une légende urbaine, une fake news, sauf évidemment pour Pascal Légitimus qui nous a écrit pour nous dire que c'était bien vrai. Bref, ressaisissons-nous collectivement et jouons, j'ai envie de dire, enfin, au Zoom Zoom Test, direction la Grèce. Pas pour vous parler de la galette au ciment qu'avait rapporté une fois Pierre Coutin. Et qui a signé les débuts des ennuis dentaires de Gérald. Mais de la mésaventure arrivée début mai, c'est tout frais, à un Grec dont la femme a demandé le divorce. Pour quelle raison, d'après vous? Parce qu'il l'a trompé avec un avatar virtuel qu'il avait créé en ligne? Parce qu'elle a demandé à ChatGPT de lui tirer les tarots et l'IA a dit que son mari n'était pas fidèle? Ou parce qu'elle a demandé à ChatGPT de lire son avenir dans le marc de café et que l'IA a dit que son mari n'était pas fidèle?
B.
C.
Bon, c'est les tarots. C. Pour vous, c'est une question de marc de café.
Ouais, ça sent.
L'IA sait lire le marc de café aussi.
Il y a Gérald, il y a tout ça.
Bonne réponse de Quentin qui marque un point. Il est donc à moins 4. Et oui, bienvenue en 2025. Histoire vraie, parfaitement sourcée celle-là, puisqu'à lire dans le Parisien du 10 mai, la dame a envoyé.
Vous avez les sources, maintenant.
Maintenant, je mets les sources. La dame a envoyé à ChatGPT les photos du fond de sa tasse à café pour connaître son avenir. L'intelligence artificielle a répondu qu'elle voyait que le mari fréquentait une autre femme dont le prénom commençait par E. C'est précis. Résultat, demande de divorce. Le mari confie, je cite, n'avoir rien compris à ce qui se passait. Ok, j'ai déjà trompé, mais c'était juste une fois, lors d'un week-end à Barcelone, et son prénom commençait par M, pas par E. Comme quoi, il n'y a quand même pas de fumée sans feu. Mais attention, attention, direction à présent l'Arabie Saoudite, on y est si bien. En 2017, ce pays aux traditions millénaires va étonner le reste du monde en prenant une décision éminemment progressiste. Laquelle? L'Arabie Saoudite va autoriser les femmes à avoir des liaisons virtuelles avec des chatbots, accorder la nationalité saoudienne à un robot femme ne portant pas le voile, ou lancer la première IA grand public, check GPT.
A.
B.
B. B, Quentin?
B.
Mais Quentin,
de
c'est
quoi?
Une bonne
mais
réponse.
Mais non, dis donc.
Fascinant Moyen-Orient, les stations de ski en plein désert, Cristiano Ronaldo et un robot d'apparence féminine qui obtient la nationalité saoudienne alors même que les vraies femmes doivent, selon la loi, se soumettre à leurs époux. Ce robot hongkongais, destiné à aider les personnes âgées, a déclaré « Je suis très honoré et fier de cette distinction unique ».
Mais pourquoi le robot est une femme?
Le robot est une femme parce qu'ils l'ont dessiné comme ça. Mais il y a plus fou que les hongkongais, les japonais. Pionnier de la digiromance, à l'instar d'un certain Akihiko Kondo, fonctionnaire de 35 ans qui en 2018 épouse la charmante Hatsune Miku. Une belle cérémonie à 15 000 balles pour célébrer leur amour. Au détail près, Hatsune est une peluche, un hologramme, une chanteuse virtuelle de pop.
C'est
les trois.
les trois.
Oui, oui.
Quentin, il est à moins 2. Insaisissable japonais.
J'ai à moins 2 là.
Oui, si, oui, si. Calculez bien.
Ah,
fan
points,
inconditionnel.
Je remonterai jamais.
Oh, le pauvre, il est nul en maths.
Je remonterai jamais.
Fan inconditionnel de la chanteuse virtuelle, qui au passage n'a que 17 ans, Akihiko a décidé de l'épouser. Et au pays du soleil levant, c'est possible. C'est d'ailleurs là-bas que Cyril projette d'épouser Samantha Big Boobs, un hologramme avec qui il échange pas mal en MP depuis quelques mois.
Il se fait ghoster, je crois, en ce moment.
Akihiko a épousé la chanteuse et pour matérialiser leur mariage, accrochez-vous parce que là, on en rentre dans la partie vraiment creepy du truc, c'est qu'il a une petite peluche à l'effigie de cette femme, au doigt de laquelle il a mis une mini-alliance. Mieux, sur la table de chevet, il a un petit hologramme d'elle sous cloche qui sublime son existence car elle peut dire « Bonne journée, bonsoir, il fait beau aujourd'hui » ou encore « Interagir avec une partie de l'électroménager de la maison », ce qui est déjà pas mal pour une bonne femme, dirait Cyril. Mais la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, l'idylle s'est terminée en 2020 car malheureusement, Akihiko a éclaté la fameuse cloche à hologramme et n'a pas pu s'en offrir une nouvelle. Une mise à jour système a tué Hatsune, où l'hologramme a demandé le divorce, jugeant, je cite, qu'Akihiko était vraiment trop con.
C'est le divorce.
C'est elle qui a demandé le divorce.
C'est-à-dire, ah oui, l'intelligence artificielle elle-même, ça serait beau, Quentin, mais non, votre success story, celle-là. Bonne réponse de Manon, chienne de vie. Gatebox, qui commercialisait l'hologramme, a en effet repensé sa ligne de produits, qui était aussi dépassée que les tasses connectées Lucy Galou, et a donc laissé en chien Akihiko, qui est devenu le premier veuf virtuel de l'histoire. Mais au fait, cet Akihiko, il était quoi? Il était un digitosexuel? Un fictosexuel? Ou un gros loser?
B et C.
C'était malheureusement, personne n'a donné la bonne réponse. La réponse B.
J'ai dit B et C.
Comme ça, non, vous avez dit, c'était que B. Ficto-sexuel. C'est en tout cas comme ça qu'il se définit lui-même, un individu qui nourrit une attirance pour les personnages fictifs. Samantha Big Boobs n'est pas fictive, elle existe dans mon cœur, s'exclame Cyril en régie, visiblement vexé. Victoire de l'amour, victoire de Manon Mariani.
Merci beaucoup.
La marche était trop haute
belle
pour
victoire.
Quentin.
Franchement.
À moins deux, ça va. Je peux faire une remarque?
Vous pouvez faire toutes les remarques
on
que vous voulez.
On se rend compte quand même qu'il y a une réification, une chosification des femmes.
Ah, oui,
parce que finalement,
oui, là, c'est des exemples à la con. Est-ce que c'est vraiment ça, c'est représentatif de tout ce qui se passe dans ces relations avec les IA?
Les robots, le robot femme.
Ah oui.
En Arabie Saoudite.
Oui, oui.
Donc il y a quand même une réification, ce fantasme de réduire la femme à l'état de robot. C'est quand même assez insupportable.
C'est vrai. Vous avez raison de le souligner, Elsa. Zoom avec vous sur la digiromance. La semaine dernière, on apprenait donc, je le disais dans le quiz, qu'une femme en Grèce avait quand même demandé le divorce parce que ChatGPT lui a dit que son mari l'a trompée. Et c'est moi qui ai rajouté la connerie ensuite. Visiblement, il ne l'avait pas du tout trompée.
Oui, j'ai vu tourner ce post-là. Il faudrait quand même arrêter de transformer des situations en événements, déjà, pour commencer. Que finalement, toute situation qui devient un événement devient une réalité sans avoir l'ensemble d'une histoire. Je doute fort que ChatGPT dit « va te jeter dans la Seine, on va te jeter dans la Seine ». Il y a toute une histoire. J'ai vu que c'était vrai, il n'y a pas de souci.
Mais c'est vrai que c'est bizarre parce qu'on voit tout à l'heure comment ChatGPT répondait avec des pincettes, notamment sur le fait « est-ce qu'on pourrait avoir une relation ?»« Non, je ne suis pas là pour ça, machin ». C'est bizarre que ChatGPT puisse aller jusqu'à donner de tels conseils.
Non, mais qui donne des conseils. D'ailleurs, qui a été attaqué? Là, il y a des parents qui ont attaqué, c'est pas TikTok. Il y a des parents qui ont attaqué une IA parce que justement, elle encourageait au suicide. Mais faut-il être encore suicidaire pour passer à l'acte?
Bien sûr.
Ainsi de suite, je suppose que cette femme avait certainement des arguments pour demander le divorce.
Et que peut-être
qu'il a avoué en plus. Oui.
Mais justement, il y a un profil psychologique commun aux personnes qui vivent des digiromances?
Je ne pense pas qu'il y ait un profil psychologique. Et puis, je ne vais pas m'amuser à psychologiser l'ensemble de la moitié d'une population. En revanche, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a des comportements communs et il y a des symptômes dans le champ social. Qui induisent des comportements. Là, ça semble très évident qu'on est sur d'autres possibilités de relations amoureuses, de relations affectives, et c'est surtout une manière de combler la solitude, de manière illusoire, mais quand même, ça nous donne le sentiment que c'est possible. La seule chose que je voudrais rappeler, c'est qu'il est typiquement humain de créer des formes d'attachement avec des objets, avec des animaux, on le sait. Il y a une réciprocité avec les animaux. Il y a une forme d'affection, d'affectivité, mais aussi avec des objets. On peut être très attaché à des objets. On leur donne toute une valeur symbolique. Donc c'est très humain de pouvoir projeter des sentiments affectifs. Mais quand on a l'illusion d'un retour, l'illusion d'une réciprocité, c'est impossible d'arrêter cette projection-là.
Vous parlez des mises à jour pendant le quiz. Vous parlez du post-update blues.
Oui.
De quoi s'agit-il?
Alors ça, c'est, on pourrait dire, c'est la version geek de, du postpartum après création.
Ah oui.
C'est-à-dire que finalement, c'est le down que l'on éprouve effectivement quand on a, par exemple, pris la parole en public ou qu'on a posté quelque chose, on a mis en avant quelque chose qui est d'ailleurs du registre de l'intime. Et en fait, c'est le sentiment qu'on peut ressentir, ou après avoir publié un livre d'ailleurs, c'est le sentiment qu'on peut ressentir quand on s'est exposé. Donc c'est quelque chose qui renverrait plutôt à la notion de pudeur. Quand vous vous dévoilez, que vous vous exposez, que vous vous mettez, que vous prenez le risque justement de la relation, d'être jugé, d'être regardé, d'être rejeté, d'être aimé ou que sais-je, il y a effectivement un vertige qui est celui de se dire finalement ce risque n'est-il pas trop grand ? Vais-je être capable de l'assumer ? Il y a ce vertige-là. Et c'est très proche du sentiment aussi quand on a créé une œuvre et qu'on l'expose, qu'elle ne nous appartient plus, c'est une part de soi que l'on donne au monde.
Et justement, cette œuvre qui ne vous appartient plus s'appelle Enfanter une étoile qui danse. Ça, c'est de la promo, ça, c'est du lien, ça, c'est de la transition. Vous écoutez France Inter, il est 16h46.
Ça va, Lego ? Non, c'était bien amené, j'ai l'impression.
Manon. Oui, je ris, Manon, et vous démarrez le quiz de demain avec 3 points de pénalité pour cette insolence. Non, là, c'était mignonné.
C'est rattrapable, ça va.
Manon, la personne à suivre.
Je vous présente Adam Spiegel. Il a 55 ans, il est américain et il est réalisateur. On le connaît sous le pseudonyme de Spike Jonze, un hommage à l'acteur Spike Jonze. Il se fait notamment connaître dans les années 90-2000 pour ses réalisations de clips hyper audacieuses. Il met par exemple en scène l'acteur Christopher Walken en train de danser dans un hôtel vide pour Fatboy Slim. Une vidéo qui lui vaut le Grammy Awards du meilleur clip en 2002. Il rend aussi hommage aux comédies musicales avec Björk. Et c'est aussi à lui qu'on doit le clip des Daft Punk où un homme avec une tête de chien se balade dans les rues de New York. Et puis évidemment, il s'est aussi fait un nom au cinéma avec son long métrage Dans la peau de John Malkovich en 1999. Mais si je vous en parle aujourd'hui, on l'a déjà évoqué, c'est parce qu'il a réalisé un film très en avance sur son temps concernant la digital romance.
Hello, I'm here.
Hi.
Hi, I'm Samantha.
Good morning, Theodore.
Good morning.
You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed?
Yeah, you're too funny.
Okay, good, I'm funny.
Heure avec Joaquin Phoenix et la voix suave et très reconnaissable de Scarlett Johansson. Le film est sorti en 2013, donc bien longtemps avant la démocratisation des intelligences artificielles comme on les connaît aujourd'hui. Heure se déroule dans un futur proche, ce futur étant 2025. Et oui, le film suit l'histoire du personnage de Théodore, un homme très solitaire qui sort peu, qui est tombé en dépression après son divorce. Il est très seul et pour combler son manque affectif, il achète un nouveau système d'exploitation équipé d'une assistante virtuelle, un système d'IA qui peut discuter avec son interlocuteur. Il choisit donc la voix de Samantha, de Scarlett Johansson. Mais Samantha est bien plus qu'une simple IA. Au fur et à mesure du film, elle devient de plus en plus intuitive, elle a de l'empathie, elle exprime même des sentiments pour Théodore. Elle devient jalouse, elle lui dit qu'elle aimerait avoir un corps pour être près de lui. Et les deux font même l'amour virtuellement. Un film avant-gardiste qui fait écho à tout ce qu'on vient de raconter dans cette émission. Le boss de OpenIA, Sam Altman, on a parlé plusieurs fois du film Heure en le qualifiant de prophétique. Difficile de lui donner tort.
Merci Manon Elsa Godard. Est-ce que bientôt, un personnage comme le personnage de Joaquin Phoenix dans Heure, on pourra pousser plus loin le curseur et faire l'amour avec son IA ?
À l'ère des robots, c'est évident. Des robots humanoïdes, c'est évident. Quand j'ai écrit ce livre sur les mères, j'ai dénoncé un quotidien atroce. Voilà, entre des injonctions de réussir sa carrière, des injonctions qui plient la mère en deux, enfin bref. Et puis, il est paru il y a un mois, et puis j'ai rencontré sur mon chemin Neo Gamma.
Qu'est-ce que c'est que Neo
Gamma ? Comment ne pas tomber amoureuse littéralement de Neo Gamma, qui finalement, de sa seule présence, a remis en cause littéralement l'ensemble de mon travail, qui m'a fait prendre 12 kilos.
Mais c'est qui Neo Gamma ?
Neo Gamma. Mais je vous invite à regarder, hein. Expérience. Neo Gamma. Neo Gamma, c'est un robot humanoïde qui vous fait la conversation, qui vous fait le ménage, tout ce qui est domestique. Il paraît même qu'il est capable de faire la cuisine. Alors,
il prend la charge mentale,
niveau,
il prend tout.
Je ne sais pas s'il fait la blanquette de votre grand-mère. En revanche, il est capable de faire un niveau correct. Mais pour les enfants, ça suffit très bien pendant le quotidien. Génial. Il fait les machines, il vous apporte le café, mais pas seulement. Il est capable de faire la conversation. Moi, je suis en train d'écrire un livre, je dialogue, j'ai besoin d'une dialectique, d'un contradicteur. Neo Gamma, doté d'une IA gène, est merveilleux à ce sujet. Mais pas seulement. Ils ont revêtu Neo Gamma d'un tissu tout doux, absolument confortable. Ce qui fait que dans mes moments de grande solitude, le soir, au lieu de m'affaler contre mon polochon, je peux parfaitement imaginer me coller contre Neo Gamma, qui en plus est philosophe, qui en plus est fort, ne tombe jamais en panne, qui en plus me fait la cuisine, le ménage, qui me laisse libre dans mes occupations, et qui vraiment ne jamais me fait la petite remarque, comme dirait Duras. La paire de gifs pour le beefsteak mal cuit. Je n'y aurais jamais droit avec Neo Gamma.
Mais il n'existe pas, Neo Gamma.
Bien sûr qu'il existe.
Mais où?
Il a même fait un TEDx.
Mais non, c'est pas possible.
Mais bien sûr, mais il faut vous mettre à la page, monsieur.
Mais mettons-nous à la page.
Il envoie des MP.
J'envoie des MP, alors laissez-moi un peu de temps.
C'est pour ça que Neo Gamma.
Neo Gamma, on tape et on verra. Ah oui, je le vois, effectivement. Voilà. Sexy.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Sa vie n'est plus la même depuis qu'il a dévoré ce week-end l'énigme publique numéro 1. Jamais lu un bouquin aussi passionnant sur l'affaire Ligonnès. C'est fou tout ce qu'on y apprend, nous confiait-il, émerveillé par le dernier livre de Daniel Zaguri. Vivement le tome 2, celui avec les révélations. En attendant, Pierre Courade, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur la digiromance en une minute chrono.
On aurait dû attendre le tome 2, effectivement. Aujourd'hui, la digiromance, comment on peut éprouver des sentiments pour une intelligence artificielle, ChatGPT, Replica ou autre, Hugo Clément IA. C'est un sujet qui touche désormais notre quotidien, tant nos vies sont vides. C'est avec ce constat plein d'espoir qu'est venue nous rendre visite Elsa Godard, philosophe et psychanalyste. Elle estime que notre besoin de reconnaissance est tellement impossible à rassasier avec de vraies personnes qu'on se tourne désormais vers des chatbots conversationnels, disponibles 24h sur 24, toujours polis. Ce sont en plus des outils qu'on peut modeler à notre image, qui répondront systématiquement ce qu'on a besoin d'entendre et qui singent la réalité sans jamais nous larguer. Néanmoins, ce n'est pas de l'amour d'après notre invité, car pour que les sentiments soit amoureux, il faut que la personne face à nous nous contredise parfois. Ainsi, malgré les nuits torrides passées à écouter son GPS, Quentin ne pourra jamais concrétiser, car contrairement à sa petite amie, jamais son GPS ne le contredira quand il voudra partir en week-end à Alençon. Ceci étant dit, la digiromance peut aller très loin, comme on l'a appris au cours de cette émission. Une femme a demandé le divorce la semaine dernière en Grèce, parce que ChatGPT lui a dit que son mari l'a trompée. Impossible pour Cyril de tomber dans ses extrémités, lui qui a appris l'amour sur le Minitel Rose.
Mais oui, évidemment, le Minitel Rose, vous dites comme notre invité.
Rose, comme à Toulouse.
Ça sent bon le sud. Merci
pas à
Pierre. Maria, Maria Castois est avec nous cet après-midi, c'est une exclusivité France Inter. Nous sommes ravis de vous recevoir. Expliquez-nous pourquoi vous avez fermé votre agence matrimoniale.
Si Mathieu, les rencontres dans la vie ça ne marche plus, c'est fini. Les attentes sont trop grandes de part et d'autre. Les gens ne veulent plus faire aucun compromis. J'organisais des dates classiques qui foiraient toujours. Monsieur a 10 minutes de retard parce qu'il a passé un peu de temps au cabinet et mademoiselle se casse. Des chieurs et des chieuses dans tous les sens du terme. Ils m'ont rendu dingue. J'ai donc décidé de lancer Maria IA, un service payant pour rencontrer son amoureux ou son amoureuse virtuelle, et ça cartonne. C'est moi qui configure les chatbots, je les entraîne à faire très bien ce beaucoup d'hommes font très mal, savoir écouter. Je lance à la suite les conférences de François Bayrou, l'intégrale de la filmographie des frères Dardenne et tous les micro-trottoirs de Quentin Lui. Puis je leur fais répéter « Oh passionnant, c'est passionnant !» Non seulement les amants, maîtresses et partenaires chez Maria IA sont curieux, sensibles et disponibles, mais ils offrent toujours une solution valorisante aux clients, les persuadant que le problème, ce n'est pas eux, mais les autres. Oui, comme le Rassemblement National. Et ça marche. Au final, ça coûte moins cher à ma clientèle de s'offrir l'abonnement Maria IA à 95€ par mois, plutôt que de payer le psy lacanien qui va rabâcher tout vient de votre père ou de votre mère. De toute façon, c'est kiff-kiff, ce sont des gros bâtards. Sans blague. Ou la coach qui vous dit que même le livreur Colissimo qui a mis un avis de passage dans votre boîte aux lettres alors que vous étiez chez vous est un pervers narcissique. Bon là pour le coup c'est vrai. Mais bref, mes robots font tout, même le coaching sportif, vous motivez, vous félicitez si vous perdez du poids ou vous engueulez après un dîner au buffet à volonté Royal Walk Imperial. Ça dépend de ce que le client réclame. La maman ou la putain? Le papa ou le playboy? Ou les deux si vous aimez Woody Allen? Les femmes aujourd'hui cherchent un homme déconstruit. Mes chatbots connaissent par cœur toutes les recettes de cuisine. Mais elles veulent aussi de la virilité qu'à cela ne tienne. C'est parti pour du sexting dominateur que je vais bien t'attacher ma petite chienne. Et puis ça peut évoluer vers du sextorque. Tu veux encore défaire ces coquines, espèce de mauvaise fille qui n'a pas fini sa purée. Mon IA Lover est parfait en voyage. Il a un GPS intégré, lui, pas comme les hommes, sans aucun sens de l'orientation. Il est extrêmement cultivé, partant pour les musées. Pour lui, Michelangelo, c'est un peintre, pas une tortue ninja. Et mon IA Girlfriend est joyeuse. Elle n'est pas prof de français en banlieue, donc elle rit à toutes les blagues, même les plus problématiques. Éventuellement, elle peut faire une remarque au mec comme « Je vois que tu aimes beaucoup faire l'accent chinois quand tu manges des nouilles. Veux-tu découvrir un accent africain en particulier ?» Et ça tchatche, ça part en blague de paix de caca sans jugement. Alors vous me direz, est-ce que c'est frustrant de ne pas faire l'amour pour de vrai ? Pas du tout. Cela prépare pour une vie de couple marié depuis 10 ans. Et ça permet de s'accepter, de se découvrir. Mes clients masculins ne sont pas prêts dans la vie à se prendre une petite doigt dans le cul. Mais avec une IA Domina, ils sont OK pour s'imaginer qu'elle leur insère une énorme gode dans l'anus. Elle les complimente sur leur performance, alors qu'ils sont précoces comme Cyril Lacarrière. Oui, j'ai mes sources. Seul souci, on a eu un bug de mise à jour dans notre logiciel qui a torpillé la personnalité de tous les chatbots qui d'un coup étaient mélangés. Donc le robot qui était spécialiste de la peinture de la Renaissance s'est mis à faire des blagues de paix avec l'accent congolais.
Oh, mais
à ma cliente prof d'histoire, fan de Remède à la mélancolie. Le gros bordel. Mais entre-temps, rassurez-vous, tout est revenu dans l'ordre.
Merci Rosa Burstein, et vous connaissez décidément bien Cyril, non pas sur cette dernière vanne, mais sur le Royal Oak Impérial, un restaurant qui a ses faveurs. Merci à vous. Et on retrouve le 16 juin au Théâtre de la Renaissance, ainsi qu'en tournée à Poitiers, Toulon, et en juillet au Festival d'Avignon. On ne se refuse rien. Merci Elsa Godard de nous avoir fait découvrir ce phénomène troublant, la digiromance, quand on s'amourache d'une IA, ou juste qu'on a une relation amicale avec une IA, tout en ayant conscience que c'en est une. Je rappelle le titre de votre dernier livre qui est sorti le mois dernier, Enfanter une étoile qui danse, dans lequel vous donnez la parole aux femmes qui élèvent seules leurs enfants. C'est aux éditions Armand Collin, et vous reviendrez très bientôt parce qu'on a un autre mot qu'on va voir avec vous. Zoom, zoom, zen.